104. Bonsoir. On va commencer en haut de la page. Avant de commencer, je veux juste faire un petit résumé de ce qu'on a fait dans le cours de la semaine dernière. Un résumé rapide. Dans le cours de la semaine dernière, on a amené une Mishnah qui se trouve à la fin du traité Yoma, page 181, dans laquelle, dans cette Mishnah, on nous a dit qu'il y avait trois catégories de Averot possibles. Et pour chaque catégorie de Averot, il y avait la Teshuvah qui correspondait. Donc on va les résumer ensemble. La première catégorie d'Avera, c'est quoi? C'est celui qui transgresse une mitzvah positive. Par exemple, il ne met pas les tefillin. Il oublie de mettre les tefillin. Et il fait tchouva. C'est quoi le din dans ce cas-là? Qu'est-ce que dit la Mishnah? La Braïta a dit que il fait tchouva et il est pardonné sur place. On lui pardonne sur place. Et nos as misham, il ne bouge pas quand on lui pardonne, c'est-à-dire on lui pardonne sur place. Ça, c'est une première catégorie. Deuxième catégorie, deuxième Mishnah, si une personne a transgressé une mitzvah négative. Par exemple, il a transgressé le Shabbat. Mitzvah négative, il a transgressé. Dieu, il a dit, il faut pas transgresser le Shabbat, il a transgressé. C'est quoi le din dans ce cas-là? Qu'est-ce que dit la Mishnah? La Mishnah dit, la teshuva suspend. C'est-à-dire que normalement, cette personne-là devait être punie. Peu importe comment, mais elle devait être punie. Lorsqu'il fait teshuva, qu'est-ce que va faire la teshuva? La teshuva va suspendre la punition. Va faire que bon, on te punit pas. Et c'est quand qu'on va vraiment le pardonner? C'est le jour du Yom Kippour. Quand arrive le jour du Yom Kippour, c'est là qu'Akadosh Baruch Hu, il pardonne entièrement, Mechaper, d'accord, Akadosh Baruch Hu pardonne.
C'est quoi la différence concrète?
Pour nous, il n'y a aucune différence.
Entre être suspendu et pardonné tout de suite.
Avant de comprendre c'est quoi la différence, il faut d'abord comprendre c'est quoi faire Teshuva. On va en parler. D'accord. Là, pour l'instant, on fait juste la Mishnah. Là, pour l'instant, j'ai juste rappelé la Mishnah. Alors, l'Admor HaZaken, avant même de rentrer, d'essayer d'expliquer qu'est-ce que c'est la Teshuvah, ce qu'on va faire aujourd'hui, on a commencé un petit peu la semaine, mais on va commencer la plus grande partie aujourd'hui. Avant même de rentrer dans ça, l'Admor HaZaken me dit, celui qui lit cette Mishnah, il pourrait avoir l'impression, c'est ce que la Mishnah veut nous faire comprendre, que transgresser une mitzvah positive, c'est moins grave que transgresser une mitzvah négative. La preuve, d'accord, c'est que tu te fais pardonner beaucoup plus facilement quand tu te transgresses une mitzvah positive. Donc, a priori, c'est beaucoup plus grave. Et ça, la réponse d'Admor HaZaken, une réponse qu'on a bien expliquée la semaine dernière. Il a expliqué que pas du tout. Au contraire. On sait très bien que dans la Torah, on a un principe qui dit qu'une mitzvah positive repousse toujours une mitzvah négative. C'est-à-dire que la mitzvah positive est beaucoup plus forte qu'une mitzvah négative. Par exemple, une mila qui tombe Shabbat, on fait quand même la mila. Pourquoi? Parce que la mitzvah positive est toujours plus forte que la mitzvah négative. Pas seulement ça, il a expliqué. Dans le judaïsme, contrairement à d'autres religions, la spécificité du judaïsme, c'est qu'on nous encourage constamment à créer, à faire. Donc, l'action est très très importante. Donc, c'est évident que c'est très grave de manquer une mitzvah positive. Alors, pourquoi c'est plus difficile à faire teshuva? Là, c'est un premier point qu'on a expliqué la semaine dernière. C'est qu'en vérité, on fait pas teshuva sur le mal qu'on a causé. Parce que si c'est sur le mal qu'on a causé, en vérité, on a créé plus de mal en omettant une mitzvah positive qu'en transgressant une mitzvah négative. Pourquoi? Parce qu'on a expliqué la semaine dernière que lorsqu'on transgresse une mitzvah négative, sous certaines façons, il y a possibilité de récupérer. Comment une personne a fait une tâche, peut nettoyer, ça peut se récupérer. Mais lorsqu'une personne omet de mettre les tefillin par exemple, plus jamais il pourra se rattraper. Pourquoi? Parce que dans sa vie, d'accord, il doit mettre les tefillin chaque jour de sa vie. S'il y a un des jours qu'il a pas mis, il pourra plus jamais le rattraper ce jour. Neuvat, le yuchal litkon, ça veut dire que qui est tordu, on ne pourra pas rattraper. Ça veut dire qu'au niveau de la gravité, en vérité, omettre une mitzvah positive, c'est beaucoup plus grave que transgresser une mitzvah négative. Alors pourquoi c'est plus difficile à faire teshuva sur une mitzvah négative? Admor HaZaken a expliqué, il a été secoué, attendez 5 minutes. Pourquoi c'est plus grave? Admor HaZaken a expliqué, il a dit, c'est au niveau de la mérida, ça c'est un point très important, il faut bien comprendre. C'est au niveau de la révolte que la personne a eue lorsqu'elle était en train de faire la Avera. Je veux dire comme ça. Si on prend dans l'absolu, c'est quelle Avera, c'est quoi qui est plus grave? Omettre une mitzvah positive ou transgresser une mitzvah négative? On vient de dire que le plus grave, c'est omettre une mitzvah positive. Pourquoi? Parce que c'est irrécupérable, jamais tu pourras la refaire. Sauf que, deux secondes, on ne fait pas teshuva sur ça. On fait teshuva sur l'intention. Sur l'intention, il a été secoué. Sur l'intention qu'on avait, d'accord? L'intention qu'on avait dans la tête à ce moment-là. D'accord? C'est quoi l'intention qu'on avait dans la tête à ce moment-là? Là, il a expliqué, lorsqu'une personne oublie de faire quelque chose, peut s'excuser facilement. Il peut dire, écoute, vraiment, je voulais le faire, mais j'ai oublié. Oh, il a oublié, il a oublié. Mais lorsqu'une personne, il vient, il fait le contraire de ce qu'on lui a demandé, c'est beaucoup plus difficile à se défendre, parce que là, ça montre qu'en vérité, il en a encore moins à faire d'un Kadosh Baruch Hu. Encore une fois. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire que la Avera est plus grave ou moins grave. C'est pas par rapport à ça qu'on fait Teshuvah. Quand on fait Teshuvah, hein, c'est par rapport au niveau de la révolte. La révolte que j'ai eue, Chas v'Shalom, envers Akadosh Baruch Hu. On a donné un exemple, la semaine dernière. On a dit quand, par exemple, une femme, elle demande à son mari, elle lui dit, est-ce que tu peux me faire les courses? Elle lui donne une liste de courses. Elle lui donne 613 choses à acheter. D'accord? Et elle en achète 612. Bon, il a oublié. Il peut se défendre facilement à la maison. Il va dire, écoute, je t'ai acheté 612, j'ai oublié une. Bon, ne m'en veux pas, ça va. Bon, on va pardonner. Mais lorsqu'elle vient, elle te dit, ne fais pas ça. Et tu viens, tu fais pile le contraire. Même si peut-être c'est moins grave, peut-être qu'elle avait plus besoin de ce 613e article. C'est possible qu'elle avait plus besoin. Mais là, hein, il y a une révolte. C'est comme si tu es en train de cracher une personne à pleine figure. Tu dis, tu m'as dit non, je vais quand même. D'accord? C'est pour ça que c'est plus difficile, c'est pour ça que c'est beaucoup plus difficile à faire teshuvah. C'est par rapport à la révolte que la personne a eue quand elle a fait la avéra.
Je
fais le résumé.
Non, mais après, je te fais un exemple de...
Deux secondes. On a la troisième catégorie. Troisième catégorie, c'est quoi? La troisième catégorie, c'est celui qui a transgressé des avérotes sur lesquelles on est chayav karet. Par exemple, il a transgressé Pessah. D'accord? On a donné différentes catégories. Alors là, dans ce cas-là, c'est quoi le din? Dans ce cas-là, la Mishnah a dit la Teshuvah plus Yom Kippour. Suspendre, ça veut dire qu'il faut les deux, mais seuls ils vont réussir uniquement à suspendre la punition, c'est-à-dire on fait rien. Qui c'est qui va réellement pardonner? Dit la Mishnah, Isourin, c'est les souffrances. Les souffrances, donc ça peut être la mort, ça peut être les souffrances, c'est les souffrances. Isourin, c'est les souffrances.
Et Yom Kippour.
D'accord? Ça c'est, non. Yom Kippour, ça suspend seulement. Ça c'est la troisième catégorie.
Oui.
Alors encore une fois, je répète encore une fois ce que j'ai expliqué. C'est un point très important à comprendre avant d'avancer dans la suite. Quand on fait teshuvah sur une avéra, c'est pas forcément par rapport à la gravité de l'avéra dans l'absolu. C'est comme quand on punit les enfants. On va pas punir un enfant par rapport à l'ampleur de la bêtise qu'il a fait. Parce que des fois, il a fait une grosse bêtise, mais il l'a pas fait exprès. Des fois, il a fait une petite bêtise, mais il l'a fait pour te narguer. D'accord? Donc tu vas pas le punir par rapport aux dégâts qu'il a causé. Par rapport à la valeur du dégât qu'il a causé. On va le punir par rapport à l'intention qu'il avait. Est-ce qu'il a fait vraiment sans faire exprès, ou bien est-ce qu'il était en train de me narguer? Lorsqu'on omet une mitzvah positive, c'est comme si on a oublié, c'est pas très grave. C'est moins grave. Mais lorsqu'on transgresse une mitzvah positive, pourquoi c'est plus grave? Parce que l'aspect mérida, l'aspect de révolte qu'il y a dans ma tête est beaucoup plus grave. D'accord? Et c'est pareil pour quand je transgresse une avéra sur laquelle on te dit c'est chayav mita. Celui qui fait ça, il sera retranché du peuple juif. On te prévient, celui qui fait ça, retranché du peuple juif. Ça n'a rien à faire. Là, c'est encore pire. Ça veut pas dire que c'est plus grave, mais ça veut dire que c'est encore, ça veut dire que la révolte, l'aspect, la révolte que j'ai quand j'ai fait la Vera est beaucoup plus grave. Ça, c'est ce qu'on a expliqué la semaine dernière. Hein, Guy, il a une question.
Là, j'ai pas une question, je peux te donner un exemple de transgression du mitzvah positive. Par exemple, ne pas faire la bride.
Que son fils, tu fermes la porte, s'il te plaît. Oui.
Ne pas faire la bride.
Ne pas faire la bride de son fils, une seconde. C'est un mauvais exemple.
Pourquoi?
Parce que celui qui fait pas la bride de son fils, il est chayav karet.
Le père est
chayav karet, et l'enfant, lorsqu'il sera grand, il sera aussi chayav karet. Donc c'est pas un bon exemple.
D'accord. Tu as pris deux exemples tout à l'heure, pour la mitzvah positive et la négative, en
oui.
parlant de Shabbat et de Tefilin.
Oui.
D'accord. Et quand tu dis que tu n'as pas mis les Tefilin, donc tu ne le rattraperas jamais,
oui.
si tu transgresses le Shabbat, tu ne le rattraperas jamais.
Oui.
Non plus.
Alors, c'est ça non. Quand tu transgresses le Shabbat, qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as pas omis quelque chose. Tu as manqué de respect à Kadosh Baruch Hu. Ce manque de respect, on peut le pardonner. On dit qu'un Shabbat peut pardonner sur un autre. Parce que j'ai rien omis. Pas lié au temps. Tu comprends? Alors que dans une mise à positive, c'est lié au temps et au nombre de fois que je dois le faire. Donc même si j'ai pas fait exprès, mais cette fois où je l'ai raté, c'est fini. Je peux plus le récupérer.
Il me semble que Yom Kippour, on le dit dans l'office, Bayom Azé ou Bayom Ahou, il rappelle, etc.
Bien sûr, il nous pardonne. Mais c'est ce que la Mishnah a dit. La Mishnah a dit que, à Kadosh Baruch Hu, à Yom Kippour, pour la Averot sur laquelle on est Chayav Karet, il suspend seulement la punition. Parce que si une personne, par exemple, a transgressé le Shabbat de manière préméditée, on l'a prévenu, il sera mis à mort. D'accord? Il a quand même transgressé. Il va être mis à mort, même si le jugement il dure de 2 ans et qu'il y a Kippour au milieu, il sera mis à mort. Alors qu'est-ce qu'a fait Kippour? Kippour n'a pas pardonné? Non, Kippour ne pardonne pas. Kippour suspend seulement.
Ça dépend des fautes, en fait.
Ouais, ça dépend des fautes. Donc maintenant, on est en haut de la page. Celui-là, il sera plus facilement.
Ça y est. Tiens, c'est parti. Non,
pas du tout. Voilà, je te vois parce que ça y est. Quelqu'un veut du coca?
Non, du rouge comme ça.
D'accord. Bon. Celui qui veut, il se sert.
On a des silhouettes pour Hachem. Pas si parfait.
Il y a où j'ai mis demande du coca.
Veiné. Donc on vous avait en haut de la page 181, Tzadik Aleph. Veiné. Mitzvat Hatshuva. Vous avez. Donc maintenant qu'on a bien compris les trois catégories d'Averot, va se lancer, on va essayer de comprendre qu'est-ce que c'est la Teshuvah. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est quoi la Teshuvah? On m'a dit, il y a d'Averot sur lesquels on peut faire Teshuvah sur place, on se pardonne, d'Averot sur lesquels il faut attendre Yom Kippour, et il y a d'autres Averot pour lesquels c'est que les souffrances qui pardonnent. D'accord. Mais c'est quoi Teshuvah? Tu m'as dit, il faut faire Teshuvah. C'est quoi Teshuvah? On a l'impression que c'est très simple. Dans la tête des gens, c'est quoi Teshuvah? C'est je m'excuse. Je dis, bon, désolé, je n'ai pas fait exprès, je recommencerai plus. Les gens pensent que ça, c'est Teshuvah. D'accord? Je vais expliquer que c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça et que c'est une manière erronée de faire teshuva. Pas seulement ça, beaucoup, dans la tête de beaucoup de gens, la teshuva c'est quelque chose qui ne peut être accompli seulement par des tzadikim. Par des gens pieux. D'accord ? Ou bien, il y a des gens qui vont vous dire, la teshuva c'est uniquement avec des jeunes, avec des souffrances. C'est des gens qui vont se mortifier. Nous, on sait très bien que bon, il y aura Yom Kippour, mais il y aura un après Yom Kippour. Donc je me dis, bon, qu'est-ce qu'elle vaut ma teshuva ? Donc on se pose vraiment des questions. Mais qu'est-ce qu'elle vaut ma teshuva? Je sais très bien que je vais recommencer, que dans un an je vous demanderai pardon. Alors c'est quoi la teshuva? Quelle est la définition de la teshuva selon la Torah? C'est les jeûnes? C'est la souffrance? C'est quoi la teshuva? Alors, veiné. Ça on a commencé à expliquer la semaine dernière. Mais je relis dans les mots. Veiné. Mitzvat atshuva mina Torah i azivat achet bilvad. Là c'est la première bombe que l'Admor HaZaken y jette. Il dit, il faut savoir que mina Torah, selon la Torah, la mitzvah de la teshuva, c'est quoi la mitzvah de la teshuva? C'est uniquement abandonner la faute. Ça veut dire décider de ne plus fauter. Ni jeûne, ni korban, ni tfila, ni rien. D'accord ? Tous les détails, comme l'Admor HaZaken va expliquer après, tous les autres détails sont des détails pour parfaire, d'accord, la teshuva. Et encore, il y a même des fois des choses qui ne sont même pas pour parfaire la teshuva, c'est uniquement en complément à la teshuva. Mais la teshuva, la mitzvah de la teshuva selon la Torah, c'est quoi ? C'est décider de ne plus fauter.
Sur cette fois.
D'accord. Ah, non, bonne question. On va voir. Alors, la semaine dernière, on a déjà donné la réponse, mais on va expliquer pourquoi et comment. Elle amène une preuve. Qu'est de Ita, Bigmara, Perek, Gimel et Sanhedrin. Comme c'est écrit dans la Gemara. Dans le troisième chapitre de Sanhedrin. Ou Bechoshen Mishpat, Sauf Siman la Metalet, Leinyan et Dout. Donc, il y a deux endroits. La Gemara dans Sanhedrin et dans le Shulchan Aruch, Choshen Mishpat. De quoi on parle là-bas? À propos d'un témoignage. On parle d'une personne qui a fait une Avera. Et une Avera, de manière qu'il est devenu pasoul la edout inapte à témoigner. Il n'a plus le droit de témoigner. Est-ce qu'il est inapte à témoigner ad vitam aeternam? Non. Qu'est-ce que dit là-bas la Gemara? La Gemara a dit, Sheikabel ala veveddin shebeiro, shelo la sadod. Il faut uniquement qu'il s'engage au beddin de sa vie de ne plus recommencer. Donc il n'a ni argent à payer, ni sacrifice à amener, ni vidouille à faire, rien de tout ça. La seule chose qu'il doit faire, c'est prendre sur soi, dans le beddin de sa ville, de ne plus recommencer. Et comme ce qu'explique là-bas le Shulchan Aruch, il explique, il dit qu'en vérité, techniquement, il n'aurait même pas besoin de s'engager devant le beddin. Ce qui compte, c'est ce qui se passe dans sa tête. Et dans sa tête, il a décidé de ne plus recommencer. Seulement, comme le beddin doit lui faire confiance, parce qu'il doit témoigner devant un beddin, et le beddin ne sait pas ce qui se passe dans sa tête, donc on va lui demander de raconter au beddin ce qu'il a dans la tête. Et donc le beddin, c'est pour ça, va essayer de le tester, et va essayer de voir est-ce que réellement il a changé. Mais c'est pas parce qu'on lui fait pas confiance. C'est parce que le beddin, il doit se baser sur son témoignage pour le considérer comme un témoignage cachère. Donc le beddin ne peut pas se dire, bon, certainement que dans sa tête tout s'est bien passé. Il doit entendre ce qui se passe dans sa tête. Mais de là on comprend quoi? On comprend qu'on parle d'une personne qui est rachat. C'est un tellement grand rachat qu'il est pas sous les doutes, qu'il est inapte à témoigner. Il y a des gens qui font des averot qui deviennent pas inaptes à témoigner. Parce que moi, on considère qu'ils l'ont pas fait par révolte envers un Kadosh Baruch Hu. Là, c'est un rachat tellement grand, tellement grave, qu'il est inapte à témoigner. Et comment on le rend cachère? Qu'est-ce qui le rend cachère? Qu'est-ce que dit l'Agmara? L'Agmara dit, il suffit uniquement qu'il accepte, publiquement, donc devant le bedin de sa vie, de ne plus recommencer. Autre exemple, l'Agmara Sanhedrin, elle donne, à l'époque, il y avait les gens qui jouaient au dé. Quand? D'une manière interdite. Et c'est quoi la condition? Donc, celui qui jouait au dé, c'est quoi le din? Fasoul l'a doute, il est inapte à témoigner. C'est quoi le din? Comment il peut redevenir apte à témoigner? C'est comme aujourd'hui les joueurs professionnels au poker. Comment il peut redevenir apte à témoigner? Qu'est-ce qu'a dit la Gemara? Elle dit, Sheish Berou Pesipen, il faut qu'il casse les dés. Et alors s'il a cassé les dés? Il y a deux dés, justement.
Des fois c'est même 3 dés.
D'accord? Qui te dit qu'il a fait teshuva? Donc de là, on voit, c'est une preuve qu'en vérité, c'est quoi le concept de la teshuva selon la Torah? Le concept de la teshuva selon la Torah, c'est uniquement décider de ne plus recommencer. Seulement des fois, quand, comme le Beddin a besoin de s'assurer que la personne a pris sur soi, donc il va lui demander de matérialiser ça par un acte. Mais ça, c'est seulement une manière de matérialiser et de montrer ça au Beddin. Mais le plus important de la teshuva, c'est dans la tête. Et ça, c'est plus important que tout. C'est plus important que les slichot, que la tefila, que le vidu, que tout. Le plus important, c'est quoi la mitzvah de teshuva? La mitzvah de teshuva, c'est dans la tête. Ça veut dire décider de ne plus refouter. Et en un instant, comme dit la Gemara, dans la Gemara Kiddushin, qu'est-ce que la Gemara Kiddushin? Elle dit, celui qui se marie avec une femme. Il dit, condition de mariage, à condition que je suis un tzaddik gamour. Tzaddik parfait, tzaddik absolu. Maintenant, on sait que c'est un rachat, on sait que le gars fait les 400 coups. Alors, bien sûr, on a envie de dire, le mariage n'est pas bon, le mariage n'est pas cachère, il a arnaqué. Qu'est-ce qu'elle dit, la Gemara? Mes coups d'échette. Elle est mes coups d'échette. Pourquoi elle est mes coups d'échette? Ça dit, misafek. Elle est mes coups d'échette, ça veut dire, on a un doute, elle est mes coups d'échette. Pourquoi? La Gemara a dit, shema irer tshuva belibo. Parce que peut-être qu'il a fait tshuva. Peut-être qu'il a eu une pensée de tshuva dans son cœur. Oui, mais alors, mais attends, et toutes les fautes qu'il a fait. Ça, c'est une preuve de ce qu'on vient d'expliquer, que quoi? Qu'avec une pensée de tshuva, il peut passer du statut de rachat au statut de tzaddik. Une pensée. Cette pensée, si on l'a pas, on peut faire tout ce qu'on veut, c'est tout ce qu'on veut. Ça bouge pas. Mais on parle d'une personne qui a une pensée, et c'est pour ça que, comme nous, on ne sait pas ce qui s'est passé dans sa tête, on ne sait pas s'il a eu cette fameuse pensée, donc on dit, on ne sait pas si cette femme aime les coups d'échette ou pas. Donc on va lui demander de divorcer et de remarier. De remarier sans condition. C'est une des options. Mais en tout cas, de là, on voit quoi? On voit qu'avec une pensée, la personne peut passer du statut de rachat au statut de tzaddik. Malheureusement, moi je ne veux pas dire, mais c'est le contraire. Le contraire est valable aussi. Avec une pensée, on peut passer du statut de tzaddik au statut de rachat. On va avancer, je préfère parler du bon côté. Je veux dire comme ça. Après, par la suite, quand on va parler de la teshuva, on expliquera à quoi sert le vidouille. Le vidouille, c'est la confession. À quoi sert le regret, la harata, le fait qu'on demande mechila, kadosh baruch, qu'on demande pardon. C'est des choses qui sont écrites dans les poskim, qui sont écrites dans la Gemara. Et c'est des choses qu'on retrouve dans les tfilot. D'accord ? Il y a le concept de la tfila, il y a le concept du korban. On ne dit pas que ça n'existe pas, chas v'shalom. On dit, tout ça, ça existe, mais c'est pas ça, la teshuva. Faire teshuva, c'est pas ça. Faire teshuva, c'est uniquement décider de ne plus refauter. Et là, on va arriver à la question qu'il a posée Yosef. Daïnou, ça veut dire, vous avez dans les mots? Daïn, troisième ligne. Daïnou, ça veut dire, Sheigmor belibo belev shalem. Il faut qu'il décide. Belev shalem, d'accord, traduction de belev shalem, traduction littérale, ça veut dire, avec un cœur entier. D'accord? C'est-à-dire qu'il décide du fond du cœur, comment dire en français, les val yashuv od le kisla. Décider de ne plus revenir, donc au mal, l'imrod de malchuto yidvarer, de se révolter contre la royauté de Dieu. Ça c'est premièrement. Deuxièmement, et je vais expliquer, velo yavor od mitzvat amelech hasve shalom, il ne transgressera plus jamais les mitzvot du roi, un de mitzvot assez, un de mitzvot lota assez. Que ce soit dans les notes positives et que ce soit dans les notes négatives. Alors j'ai lu un peu vite, mais dans ces quelques lignes, il y a encore beaucoup, beaucoup de notions de teshuva. Premièrement, on a la question que Yosef il a posée tout à l'heure. Il a dit, attends, tu dis que je prends sur moi de plus refauter. Ça veut dire quoi que je prends sur moi de plus refauter? Est-ce que ça veut dire que je prends sur moi de ne plus refaire cette avéra? Ou je prends sur moi de ne plus fauter du tout? Alors dans la tête des gens, c'est quoi faire teshuva? J'ai fait une avéra, donc on parle de cette avéra. Le reste est bon. On ne va pas du reste. On parle que de ce qui pose problème. J'ai fait une avéra, j'en ai fait 10, j'en ai fait 100. Bon, je demande pardon, je sais 100. Je dis, je ne les recommencerai plus. Le reste, on n'en parle pas, ça ne nous concerne pas. Qu'est-ce qu'il dit ici là de Morazaken? Morazaken dit non, ça c'est pas teshuva. Ça s'appelle pas une teshuva. Une personne qui dit, je ne refais plus cette avéra, mais les autres ils disent, bon, les autres, je continue. Ça me dérange pas. Ça s'appelle pas faire teshuva. Faire teshuva, ça veut dire que décider, ça peut prendre du temps, ça peut être progressif. C'est pas faire teshuva d'un coup, mais c'est-à-dire décider qu'il faut que tout mon comportement change. Pas une chose, pas un élément. Il faut que tout mon comportement change. C'est ça teshuva. Ça veut dire qu'une personne qui regretterait seulement sur une chose, c'est pas teshuva. On a donné l'exemple la semaine dernière. C'est comme une personne qui embête sa femme sur 10 points. Et après, il s'excuse, il lui dit, bon, je recommencerai plus ces 10 choses. Sous-entendu, le reste sous réserve. D'accord? Eh non, ça marche pas comme ça. Quand tu dis que tu recommenceras plus, ça veut dire que je recommencerai plus cela. Et rien d'autre. Et c'est ça la teshuva. Alors là, la Gemara Zaken nous explique bien ici que dans la teshuva, on a deux détails.
La révolte.
D'accord. Non, deux secondes. Dans la teshuva, on a ici deux détails. Oui, non, mais c'est quoi la... Qu'est-ce qu'il veut dire ici? Il y a deux choses. D'accord. Premièrement, Le point le plus important, le point le plus important dans la tchouva, c'est quoi? Qu'est-ce qui nous dérange le plus? C'est le fait que la personne, s'il a fauté, ça veut dire qu'il s'est révolté contre la Kadosh Baruch. Et ça nous dérange. Ça, c'est le plus grave. C'est pour ça que la première chose, quand une personne fait tchouva, avant même de rentrer dans les détails, dire j'ai fait tel avéra, j'ai fait tel avéra, j'ai fait ci, j'ai fait ça, avant même de rentrer dans les détails, il amènera des preuves après, avant même de rentrer dans les détails, il faut d'abord décider de ne plus se révolter contre la Kadosh Baruch. Ça, c'est le point le plus important. C'est ce qu'il a dit ici. C'est-à-dire décider de ne plus se révolter contre la volonté de la Kadosh Baruch Hu, ne plus faire le contraire de la volonté de la Kadosh Baruch Hu. Après, une fois que j'ai décidé de plus me révolter contre la Kadosh Baruch Hu, alors là, il y aura un kabbalatol, il y aura une soumission, on va commencer à rentrer dans les détails. Parce que par exemple, je me dis, bon, je décide de plus me révolter, mais plus en détail, ben j'ai plus de mal avec ça. J'ai plus de mal avec ça. Donc là, on va commencer à rentrer dans les détails. Je veux dire, voilà, il y a tel mitzvah positif, tel mitzvah négatif. Mais ça, c'est déjà des détails. Est-ce qu'on appelle Kabbalat Ol Malchut Shamaim? Un temps qui remet très souvent dans les livres qui parle de Teshuvah. Kabbalat Ol Malchut Shamaim. Avant même de faire Teshuvah, de dire j'ai fait tel avéra, le point le plus important, c'est d'accepter sur soi le joug d'Akadosh Baruch Hu. De dire, le fait, si j'ai fauté, même si c'est une avéra infime, qui me paraît infime, si j'ai fauté, ça veut dire que je me suis révolté contre Akadosh Baruch Hu, il faut plus que je me révolte contre Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est plus important. Après, vient la deuxième, le penser sincèrement.
Ça suffit.
D'accord? Après, on va rentrer dans les détails. De dire, et alors, bien sûr, on va se battre avec lui. Après, on va rentrer dans les détails, de dire, que là, velo yavoro et mitzvot amener, comme il a dit, ça veut dire que je ne vais plus transgresser les mitzvot. C'est-à-dire, tout d'abord, premièrement, je décide de plus me révolter du tout. Rien à voir avec des ordres, pas des ordres. Je me suis mis dans un état d'esprit de révolte. Dans un état d'esprit dans lequel je ne fais pas ce qu'on me demande. Je fais qu'à ma tête. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, je prends sur moi de ne plus transgresser ni les mitzvot positifs, ni les mitzvot négatifs. C'est-à-dire que là, on rentre dans les détails. Vezeu ikar pirush, donc sixième ligne. Vezeu ikar pirush tachem tshuva. Ça, c'est l'essentiel de l'explication du mot tshuva. Tshuva en hébreu, ça veut dire quoi? Tshuva, ça vient du mot shav. Shav en hébreu, ça veut dire retour. La shuv el Hashem bechol libo ou bechol nafsho. Revenir vers Dieu de tout son cœur et de toute son âme. Le rovdo velishmor kol mitzvotav. Vous voyez encore une fois. Donc revenir vers la Kadosh Baruch Hu de tout son cœur et de toute son âme. Là, on fait appel, quand on dit tout son cœur et tout son âme, ça veut dire on fait appel au matériel et spirituel. Et là, encore une fois, vous voyez, il répète. Il dit de le servir et de garder toutes les mitzvot. Pourquoi ces deux détails? Le servir, ça veut dire décider d'accepter sur soi le joug divin, de ne plus se révolter. Après, garder toutes les mitzvot, ça c'est déjà des détails. Mais on peut commencer à parler des détails seulement quand on est à la généralité. Tant que tu n'as pas pris sur toi de ne plus m'embêter, ne me parle pas. Une fois que tu as décidé de changer, là on parle. Bon, il y avait ça. D'accord. Mais tant qu'on n'a pas décidé de changer, ça ne sert à rien, on perd notre temps. Et il amène des preuves. Parce que c'est un grand ridouche, un très très grand ridouche que je suis en train de dire ici.
On parle des gens là, qui savent tout ce qu'ils vont faire, ce qu'ils vont pas faire.
Bien sûr. Encore une fois, on n'est pas en train de dire, on n'est pas en train de dire qu'une personne va faire teshuvah. Encore une fois, je répète ce que j'ai dit la semaine dernière, après le cours. On n'est pas en train de dire qu'une personne va faire teshuvah d'un coup.
Ben si.
C'est pas dit ça.
On dit ça.
Non. On parle de ce que la personne a dans la tête. Imaginons qu'une personne n'est pas du tout religieuse. Pas du tout religieux. Et il décide de faire teshuvah. Voilà, il sait très bien que s'il va tout prendre d'un coup, ça va pas marcher.
Ben voilà.
Dans sa tête, mais attention. C'est pas qu'il dit, bon, j'accepte Dieu que pour une mitzvah, pour les autres, je zappe, ça m'intéresse pas, c'est du pipeau. Non, il dit pas ça. Il dit, je pense que tout est juste, mais je suis pas encore prêt.
Ah.
Donc ça va prendre du temps. C'est comme ça qu'on fait tshuva.
D'accord.
D'accord. Oui. C'est-à-dire, il dit, je pense qu'à terme, il faudrait que je m'arrange sur tout. D'accord. D'accord.
Oui,
mais je suis pas encore prêt. Mais ça veut dire quoi? Ah. On n'a plus l'aspect révolte. Je suis pas en train de me battre, je dis, écoute, je suis en train de revenir, mais ça va prendre du temps. Pas de problème, prends le temps que tu veux. D'accord, c'est comme un homme qui dira à sa femme, il lui dit, écoute, bon, je pourrais pas changer du jour au lendemain, ça va prendre du temps. D'accord, donc progressivement, ça prend du temps. Bon, d'accord, on te donne le temps que tu veux. D'accord. Entre eux.
À quel moment du processus il fait teshuvah?
C'est constant.
Tu veux pas là.
Le moment où il fait teshuvah, hein, c'est surtout le premier instant, l'instant dans lequel il dit, je vais changer.
C'est pour ça.
Après, c'est l'application de la teshuvah, la mise en pratique.
Tu veux pas dire en même temps, je prends sur moi le joug divin de ne plus faire de la vérote et de faire toutes les mitzvot, et en même temps de dire, bon, ben, j'ai décidé de changer, mais bon, ça va prendre du temps, parce que...
Un exemple, imagine-toi, voilà, tu fumes, par exemple, d'accord?
C'est pas une avérote.
Non, c'est un exemple. Non, mais c'est un exemple.
Non,
combien de cigarettes tu fumes par jour? Un paquet. Combien de cigarettes est dans un paquet? 20 cigarettes, là, d'accord.
Bon,
donc disons que tu as envie de faire tes chouas, tu dis j'ai décidé, je vais arrêter de fumer.
Ouais.
Maintenant tu sais que tu peux pas arrêter d'un coup. C'est un jour tu te réveilles, tu as compris que ça fait du mal à ta santé, il faut que tu arrêtes.
Ouais.
Et donc tu sais que tu vas arrêter d'un coup net, ça va pas tenir, tu vas reprendre. Alors qu'est-ce que tu te dis? C'est bon. Tu dis on va commencer progressivement, tu dis je sais me tenir. On va commencer aujourd'hui 19, dans 2 semaines, 18. 2 semaines plus tard. Bon,
ça marche.
Seconde.
Ça marche pas.
Ça marche.
C'est un exemple que je donne. Si t'es quelqu'un qui a une volonté de faire, ça marche. Mais, alors, maintenant je pose la question. Le premier jour, le jour où t'as décidé d'arrêter de fumer, t'as pas décidé d'arrêter de fumer une cigarette. T'as décidé d'arrêter d'en fumer 20. Sauf que quoi? Comme tu sais que tu peux pas t'arrêter de faire 20 d'un coup, donc t'as dit, ça va me prendre du temps pour arriver à 20. Donc, tu t'es rentré dans un processus. Ce processus, il prend du temps, y a pas de problème. Mais t'as pas décidé sur 1, t'as décidé sur 20.
D'accord.
Donc ça, c'est tes chouas.
Oui, d'accord. Mais c'est pas la même chose qu'on a dit tout à l'heure.
D'accord. C'est exactement la même chose. C'est qu'il n'y a plus l'aspect révolte. Donc on a gagné, c'est tout gagné. C'est qu'il n'y a plus l'aspect révolte, c'est tout gagné.
Attention.
Que moi, je sais qu'à tout, oui.
Faut faire qu'une seule fois des chouas dans la vie, alors.
Non. Non. Tous les jours.
Tout, mon frère.
Tous les matins, modéani, tu fais des chouas.
Oui, mais ça serait trop facile si on serait réglé comme des machines. Le problème, c'est que dans une même journée, on demande trois fois Tzlachlanou à Kadosh Baruch Hu parce qu'il y a une courbe. Des fois, on peut décider de bien se comporter, mais après, on retombe, après, on redécide. C'est... D'accord ?
Si, c'est sincère. C'est sincère, mais les Tzara, ils dépendent de ta force.
Sincère. Encore une fois, c'est sincère. Ça, c'est pour ça que ce que l'Admor HaZaken est en train de dire ici, c'est à double tranchant. C'est-à-dire, d'un côté, la personne, il doit tout prendre sur lui, mais d'un autre côté, on sait très bien qu'il va refauter. Alors, quelle valeur ça a?
Donc, c'est plus... Regarde ce que toi, tu disais, l'exemple de la cigarette.
Oui.
C'est plus facile de s'attaquer à chaque mot, à chaque mal ou chaque mot. Chaque mal. Finalement, une fois que c'est la cigarette, parce que tu sais que c'est mauvais pour toi, une fois d'autres choses.
Non.
Donc, imagine, tu prends toutes... Imagine que tu fais... tu sais que toi, ça t'en perd. C'est plus facile d'attaquer sur chaque chose. Tu dis ça, ça y est, ça j'ai fini.
Alors, je reprends l'exemple de la cigarette. Imagine-toi. J'ai compris. Ouais. Imagine-toi que Yaakov aurait dit... Yaakov, il aurait fait tes chouva comme ça. Il aurait dit, 20 cigarettes, c'est mauvais pour la santé, mais 19, c'est bon pour la santé. Ça, c'est pas bon, il a rien compris. Tu peux pas faire tes chouva que sur une cigarette, tu vas faire tes chouva sur les 20. Ah, ça va prendre du temps, y'a pas de problème. Mais si tu fais que sur une, ça veut dire quoi? C'est en train de dire, 19, c'est bon pour la santé, mais 20, ah, ça y est, c'est mauvais. La 20e, elle est mauvaise, donc j'enlève la 20e. Non, c'est pas comme ça qu'il faut réfléchir. Faut réfléchir que toutes ne sont pas bonnes, sauf que ça va prendre du temps. Bon, prends le temps qu'il te faut. Alors, on va amener quelques versets. Avec ces versets-là, vous allez voir qu'on va rentrer un peu plus dans les détails. Que moi, j'ai Katouf, donc c'est constant, mais on arrivera à ta question dans les chapitres suivants. Le chapitre suivant, il expliquera plus profondément qu'est-ce que ça veut dire la teshuva. Et si une personne a déjà fait teshuva, et qu'après, vraiment, il a fait teshuva, le Yom Kippour suivant, d'accord? Il n'a pas refauté entre-temps. Il n'a pas refauté, c'est possible. Sur quoi il fera teshuva? Comment les tzadikim font teshuva? Donc, on a besoin de comprendre un peu mieux ce que c'est la teshuva. Donc là, dans le chapitre 4, il fera appel au Zohar. Pour expliquer plus profondément qu'est-ce que c'est la teshuva et qu'est-ce qui se passe à l'intérieur quand on fait teshuva. Mais là, pour l'instant, on est plus dans l'aspect halakhique. Tu vois ce que je veux dire? On n'est pas encore dans l'aspect intérieur de l'âme. On parle pas de l'âme encore. Là, on parle de l'aspect halakhique. L'aspect halakhique, décider de ne plus refauter. Comment chez Katouv, comme c'est écrit dans Isaïe, Yeshaya, c'est écrit Yazov Racha Darko Veish Aven Marchevotav. Un verset qui revient très souvent dans la tefila de Rosh Hashanah Kippour, qui dit « Le racha abandonnera son chemin, veish aven marchevotav, et le mauvais homme abandonnera marchevotav ses pensées, et Yashav al Hashem il retournera vers Dieu. » Alors, sous-entendu, l'Admor HaZaken se pose la question ici, il dit « Ça veut dire quoi ? Le racha abandonnera son chemin, donc sa voix, et l'homme qui a fait du mal abandonnera ses pensées. » Donc il abandonnera sa voix, et il abandonnera ses pensées. C'est quoi la différence entre sa voix et ses pensées? Ça correspond exactement à ce que l'Admor HaZaken vient expliquer. C'est quoi la voix? La voix, c'est l'état d'esprit général qui dit que je me révolte contre Akadosh Baruch Hu, Chas V'Shalom. Ça, c'est la première chose. Le Racha, il décide d'abandonner sa voix. C'est-à-dire que dorénavant, je suis plus dans la voie de la révolte, je suis dans la voie qui va vers Akadosh Baruch Hu. Après, une fois que j'ai décidé ça, va venir la deuxième phase du verset. Ve'ish aven marchevotav. Et après, l'homme va commencer ses pensées, au pluriel, parce que là, on peut avoir plusieurs pensées différentes. Là, on peut commencer à rentrer dans les détails. Mais c'est seulement une fois qu'on a décidé d'abandonner la voie de la révolte contre Akadosh Baruch Hu. Tant qu'on n'est pas passé par là, on perd son temps. Là seulement, Ve'yashov el Hashem, c'est seulement comme ça qu'on pourra retourner vers Hashem. Ça, c'est un premier verset. Un deuxième verset dans la paracha de la semaine dernière, paracha Nitzavim, ou parachat Nitzavim, la paracha Nitzavim, Enfin, il dit ici Parashat Nitzavim, mais après, il ne cite pas les autres références. Après, avant, il a dit des références, il n'a pas dit où c'était écrit. Parce que la Parashat Nitzavim, c'est la Parashat qu'on lit juste avant Rosh Hashanah, donc elle n'aura pas avec la Teshuva. Ou bien Parashat Nitzavim, Ktiv, dans la Parashat Nitzavim, il est écrit Veshavta ad Hashem Elokecha. Tu retourneras jusqu'à, on va dire, vers l'Éternel ton Dieu, Veshamata Bekolo, et tu écouteras sa voix. Bechol Levavcha de tout ton cœur. Donc pareil, on a la même question. Si je retourne vers Dieu, ben ça veut dire que je vais écouter ce qu'il me dit. C'est évident. Ce serait bien comment chaque lettre dans la Torah est précise. Là, tu me dis, tu retourneras vers Dieu et tu écouteras ce qu'il va te dire. Ben, si je retourne vers lui, j'écoute ce qu'il va me dire, sinon je ne suis pas retourné. Là, ça correspond. Là, encore une fois, ça correspond exactement à ce que la Gemara Zaken a expliqué. Que quand tu dis tu retourneras vers Hachem ton Dieu, ça veut dire quoi? C'est général. Ça veut dire je décide de ne plus me révolter. Après, on rentre dans les détails. Veshamata Bekolo, tu écouteras sa voix. C'est-à-dire que là, on commence déjà à parler de préceptes. Détaillé. Ah, on rentre déjà dans les détails. Mmh. Là, c'est encore une deuxième preuve. On a encore une troisième preuve. Shuva Israël, Ad Hashem Elokecha. On a un verset dans Hoshea qui dit la chose suivante, qui dit Shuva Israël, Ad Hashem Elokecha. Retourne Israël jusqu'à Hashem ton Dieu. Et enfin, un dernier verset, Ashivenu Hashem Elecha. Ah, aussi dans la Tfilah en Shnei Kippour, on trouve beaucoup ce verset. Ashivenu Hashem Elecha, ramène-nous Hashem vers toi. De tous ces versets, on voit quoi? On voit que le plus important dans la Teshuvah, c'est quoi? Le plus important dans la Teshuvah, c'est le fait de décider de retourner vers Hachem. Ça, c'est le plus important. Et comme je dis la semaine dernière, c'est malheureux. Mais on peut avoir quelqu'un qui a fait les Slichot, qui est venu à toutes les Tfilot, qui était là à l'heure, qui est parti après l'heure. Il a fait tout. Il n'a pas fait Teshuvah. D'accord? Il n'a pas fait Teshuvah. Pourquoi il n'a pas fait Teshuvah? Parce que dans sa tête, d'accord? Dans sa tête, il n'a pas décidé de changer. Il n'a pas décidé de changer, il n'a pas compris qu'il y a un problème dans sa tête et qu'il faut arrêter de faire qu'à sa tête. Il faut écouter un peu ce que Kadosh Baruch Hu dit. D'accord? Qu'est-ce qu'il va se dire pendant Rosh Hashanah? Il va se dire, bon, c'est pas pour mon bien. Ah, d'accord, bravo. C'est pas pour mon bien de fauter, c'est pas bien. Il n'a rien compris, c'est pas ça Teshuva. Ah, t'as pas fait Teshuva, t'as décidé de mieux te comporter pour ton bien. Bon, ok, mais c'est pas ça Teshuva. Teshuva, c'est, ça peut être en un instant, comme j'ai dit la semaine dernière, c'est le juif qui peut venir même pour Neila, mais qui, à ce moment-là, il décide, il dit, faut que je change, il est sincère. C'est possible qu'il va retomber après. Mais s'il est sincère à ce moment-là, il pense vraiment, il dit, faut que je change, il a fait la mise à la Teshuva. Bon, bien sûr, on voit pas ce qu'il y a avant, ce qu'il y a après, il faut, il y a des comptes après, attention. D'accord? Mais, la mitzvah de la Teshuva, Minatora, il vient de la faire. Donc on a quatre preuves, quatre versets différents qu'on a amenés. D'accord? Bon, je rentre pas trop dans les détails, dans l'écouter les vitraques du père du Rabbi, il explique longuement comment ces quatre versets correspondent à quatre niveaux, quatre nuances dans la Teshuvah qui correspondent aux quatre lettres de Yudke et Vavke, mais bon, ça, je vais pas rentrer dedans.
Donc la Teshuvah, c'est que l'intention du moment.
Oui. C'est la décision.
L'intention, ce que tu voulais dire. C'est la décision. Ouais. C'est même pas
la graine qu'on a semée.
C'est la mise en action de ce que je décide.
Non, c'est même pas la mise en action. C'est la décision.
On parle du rachat.
D'accord. C'est comme dans une affaire, une personne qui voit que son affaire ne marche pas, d'accord, et qui décide, il dit, il faut que je reprenne l'affaire. Ça y est, ça c'est Teshuvah déjà. Après c'est les détails, comment, pourquoi, où, ça c'est les détails déjà. Mais la décision, Minatora, c'est déjà la Teshuvah. C'est le fait de décider de retourner, de ramener ta boîte à l'état initial, de faire de l'argent.
C'est contre ce que tu disais au début du texte. Tu dis, ce qui est important, c'est l'action. Là, on n'est même plus dans l'action.
Bien sûr. C'est quoi la Teshuvah? C'est pour ça que j'ai expliqué. C'est exactement au contraire, ça conforte ce que j'ai expliqué.
Pourquoi?
J'ai expliqué que normalement, faire Teshuvah sur une mitzvah positive, ça devrait être beaucoup plus difficile parce que c'est irrécupérable. On peut jamais récupérer. Donc de là, on voit que la Teshuvah n'est pas par rapport à la gravité de ce que j'ai fait. La Teshuvah est surtout par rapport à l'état d'esprit dans lequel je me suis mis. Et un état d'esprit, ça peut changer en une seconde. Et l'état d'esprit d'une personne qui a fait une avéra, qui a fait une mitzvah négative, est beaucoup plus dur à changer. Il y a un état d'esprit de révolte beaucoup plus fort que celui qui a omis de faire une mitzvah.
Donc celui qui fait une grosse bêtise, mais dans son état d'esprit, pour lui, c'était pas très grave. Enfin bon, c'est moins grave que celui qui fait une toute petite bêtise, qui le fait.
Bien sûr. Là, on voit clairement comment tout est relatif. Comment tu peux avoir un juif religieux? D'accord? Qui a fait une petite avéra. À la limite, il a omis de faire une avéra, mais dans sa tête, au moment où il a fait, bon, il a zappé. D'un autre côté, t'as quelqu'un qui fait zéro mitzvot et toute l'avérante. Mais bon, il ne fait pas pour embêter Dieu, il fait parce qu'il n'a pas été éduqué dedans. Eh ben, l'avéra qu'a fait l'autre juif est plus grave que toute l'avéra de l'autre.
Je préfère le deuxième, c'est d'accord. Sympa, hein, excuse-moi.
Demande à Dieu de te refaire un
guigoule. Si bon, on s'en fout pas au courant, c'est pas grave. Même, on l'a bien kiffé, nous c'est comme ça. Et c'est moins grave que le mec, une fois, il s'est pas levé pour les styrotes.
Je sais pas pourquoi il s'est pas levé.
Non,
Est-ce qu'il s'est pas levé parce que c'est trop dur? Ou est-ce qu'il s'est pas levé parce qu'il dit, je zappe? matin, je dors.
Non, pas les hommes, mais bon, il y a une petite faiblesse.
En général,
il y a une petite faiblesse, bon, je arrive à 7h15, bon.
Ça dépend, il y a deux catégories d'Yetzarara. T'as un Yetzarara qui vient te voir le soir, hein, et qui te dit, bon, demain, je me lève. Tu mets le réveil, d'accord, le réveil, il sonne, t'appuies à chaque fois sur le bouton pour qu'il sonne 5 minutes plus tard, snooze, d'accord.
Ouais.
Et bon, dans les faits, quand tu te réveilles vraiment, c'est déjà trop tard. Oh, ça, c'est un niveau. Ça, c'est un Yetzarara. Ouais, vraiment, bon, je voulais aller, mais bon, c'est plus fort que moi. Mais t'as un deuxième qui va dormir. Quand il va dormir, il dit, je mets pas de réveil. Et il annonce à tout le monde autour de lui, à sa femme, à ses enfants, il dit que personne ne me réveille, demain, je dors.
Voilà. Ouais. Le réveil Yetzarara, c'est qui arrive à te faire coucher plus tard que tu voulais.
T'as compris la différence?
Ouais.
T'as compris le coup?
Mais celui-là, il est là tous les soirs, celui-là.
Demain, je dors. Bon. Alors, lo kedat amon. Donc, on a bien compris que c'est quoi la teshuvah. On a amené quatre preuves très très fortes. Quatre preuves très fortes qui montrent que c'est quoi le plus important de la teshuvah. C'est d'abandonner le derer, d'abandonner l'état d'esprit de révolte. C'est ça le plus important. De changer de voie. Une fois que t'as changé la voie, après il y a les détails. Bon, on faut arranger un petit peu, mais c'est déjà des détails. Velo kedat et amon. Pas comme le peuple pense. Shatshuva iatanit. Les gens pensent que la teshuva c'est les jeunes. Alors on verra après, parce que c'est vrai qu'il y a des livres dans lesquels c'est écrit pour tel avera, tel nombre de jeunes. Tel avera, tel nombre de jeunes. Aujourd'hui on rachète ça par la tzaka. Donc on va dire, ah, c'est quoi la teshuva? À l'époque c'était les jeunes, aujourd'hui c'est la tzaka. Donc c'est quoi la teshuva? Tu payes, c'est tout. Ça c'est une grande erreur. Une grave erreur. La teshuva n'est pas le jeûne. Va filou. Mishavar al kritat ou méthode bedine. Même si c'est une personne qui a fait des avérotes de catégorie C, c'est-à-dire des avérotes sur lesquelles Dieu devra le mettre à mort, chazé shalom. Shekmar kaparate ou aide isourim, qu'on a dit que comment Dieu va finir son pardon, c'est au travers des souffrances. Ah, tu veux dire, ah, voilà les souffrances, c'est pour ça que je jeûne, c'est pour les souffrances. Tu dis, non! Qui doit t'amener les souffrances? C'est pas toi! C'est Dieu qui va amener les souffrances. Aïnou, ça veut dire, Shakadosh Baruchou me vient la visourine. Quand on te dit qu'il y a les trois, dans la Averot de catégorie C, Akadosh Baruchou, il va nous pardonner au travers de, il va nous pardonner au travers des Isourim, au travers des souffrances. C'est Dieu qui envoie les souffrances, c'est pas moi qui décide de prendre des souffrances. Ou comment chez Katouv, comme c'est écrit, Ufakati Beshevet. On est vers le milieu de la page. Comme c'est écrit, Dieu il dit Ufakati Beshevet Pisham, Beshevet Vegomer. Dieu il dit, je me souviendrai avec le bâton de leur faute. Je me souviendrai. C'est Dieu qui va se souvenir. Pourquoi? Pourquoi moi je vais faire le premier pas? Pourquoi je vais dire, bon, puisque de toutes les façons, Dieu veut me faire souffrir, alors bon, moi je vais me faire souffrir. C'est plus simple, je vais jeûner. C'est ma teshuva. Tu dis, non, ça marche pas comme ça. Tu dis, parce que lorsqu'Akadosh Baruch Hu a décidé de faire souffrir quelqu'un, hein, encore une fois, c'est contrairement aux idées reçues, c'est pas parce qu'il le déteste, au contraire. Au moment où Akadosh Baruch Hu décide de faire souffrir quelqu'un, hein, ça veut dire qu'il a accepté sa teshuva. Et comme il a accepté sa teshuva, hein, il dit, comme je vois que tu as envie de revenir, alors je vais t'aider à te nettoyer. C'est pas que moi, directement, je viens chez Dieu, je dis, je me fais souffrir. Non. Moi, j'ai pas le droit de faire souffrir mon corps. D'accord? Arrivé. Là, pour l'instant, on explique que la souffrance ne fait pas partie de la teshuva. Alors, ouais. Sur quoi ils se fondaient les jeûnes? On verra après. Ça peut être un complément, ça peut être pour pas faire. Mais c'est pas la teshuva. C'est pas ça, la teshuva. La teshuva n'est pas le jeûne. Et même dans la vérole de catégorie C, qu'on a dit que c'est les souffrances qui pardonnent, c'est les souffrances que Dieu envoie. Pourquoi Dieu envoie? Vaïnu, chetchuvato, retsuya, la fin d'invite barère. Lorsque la teshuva d'une personne est acceptée devant Dieu, contrairement aux idées reçues, ça aussi. Veshuvo el Hashem, bechol libo venafsho me'ava. Lorsqu'on a affaire à une personne qui a fait une teshuva parfaite, par amour. Vraiment, elle a fait une teshuva parfaite, absolue. Azaï, à ce moment-là, hein, puisque Dieu, il voit que, veit aruta diltata, puisque Dieu, il voit qu'il y a eu un réveil d'en bas, que la personne a montré qu'elle est sincère et qu'elle a envie de revenir. Ou chemaï ma panim vechoulé. On sait très bien l'effet miroir, comme on l'a expliqué dans la première partie du Tania. Alors, Itaruta dit, et là, pareil, Dieu aussi l'effet miroir. Dieu aussi va dire, bon, tu veux te nettoyer, on va t'aider à te nettoyer. Le horaire, ava, de chesed Hashem, le marek, avono, beisori, walamazé. C'est là que Dieu va envoyer un chesed. C'est quoi le chesed que Dieu va envoyer? Dieu va dire, je vois que tu veux te nettoyer, alors je vais t'aider à te nettoyer.
Dans ce monde.
Dans ce monde. Bah voilà, mazé, dans ce monde-ci. Comme ça, quand t'arrives en haut, c'est clean.
C'est chesed et gvura.
D'accord. Pas du tout. Oui, oui, d'accord, oui. C'est chesed, non, c'est gvura chez Bechesed.
D'accord.
Moi, chez Katouv, comme c'est écrit dans Michelet, qui est Asher, Yehav, Hashem, Yuchiach. que Dieu éprouvera celui qu'il aime. Et c'est pas de la blague, c'est pas, on n'est pas en train ici de tendre la deuxième joue. D'accord, de dire bon, tu m'as donné une claque, je te donne la deuxième joue. Pas du tout. C'est pas ce qu'on est en train de dire ici. Ce qu'on est en train de dire ici, c'est avec nous ou pas? Hein?
Non, mais il est perturbateur là.
Il faut qu'il descende de l'avion, il n'est pas descendu de l'avion.
Il est en perturbateur.
Dès qu'il est descendu de l'avion, il arrive. Ça y est, il arrive.
Non, peut-être que certainement Grudy il a déjà fait tes choix, donc ça ne le concerne plus.
Non.
Quoi, non, il dit oui. Amen. Alors, comment j'ai Katoub comme c'est écrit, qui est ta chair, Yehav Hashem Yochiar. Qu'est-ce qu'il est dans Michelet, le roi Salomon, Shlomo HaMelech? Il dit qui est ta chair, Yehav Hashem Yochiar, que Dieu éprouve ceux qu'il aime. C'est-à-dire quoi qu'il éprouve ceux qu'il aime? C'est n'importe quoi.
C'est difficile.
J'aime quelqu'un, je ne l'éprouve pas, pourquoi tu l'embêtes? Laisse-le tranquille.
C'est ce que je dit, mais
pourquoi? C'est quoi la réponse? La réponse est là. C'est que quand Akadosh Baruch Hu, il fait souffrir quelqu'un, c'est en vérité, c'est un recette d'Akadosh Baruch Hu. Et là, dans ce cas précis, alors bon, des fois c'est difficile à expliquer comment c'est un recette d'Akadosh Baruch Hu, mais là, c'est relativement facile. Parce que là, on a affaire à une personne qui fait une teshuvah sincère, et vraiment, ça le tracasse, ça le dérange, il dit, Dieu, je t'en prie, je veux que tu me pardonnes, je suis prêt à tout faire. Il montre à Dieu qu'il est prêt à tout. Elle dit, bon, ok.
D'accord.
Ok. Tu veux qu'on te nettoie? On va te nettoyer. Pas de problème. Mais qui a décidé de le faire souffrir? D'accord. C'est Dieu qui a décidé. Dieu décide uniquement, Dieu décide uniquement lorsqu'il a accepté la teshuva. Ça veut dire que lorsque Dieu va faire souffrir la personne, c'est seulement lorsqu'il a décidé d'accepter la teshuva. De la même manière, de seconde Julien, de la même manière, lorsqu'on doit mettre quelqu'un à mort, lorsque le Bedin doit mettre quelqu'un à mort, on sait très bien ce que le Rambam, ce que Maïmonide dit, que lorsqu'on met quelqu'un à mort chez nous, c'est pas simplement pour le mettre à mort et dire bon, comme ça les autres ils suivent pas. Pas du tout. C'est que ça veut dire que la personne qui a fauté, Akadosh Baruch Hu a décidé que la seule manière pour lui de se faire pardonner, c'est par la mort. Et c'est un chesed qu'on est en train de le tuer. C'est un chesed qu'on est en train de le tuer. D'accord? Bien sûr c'est difficile.
Ce que disent les terroristes. Hein.
D'accord? Ah oui, c'est tuer les autres.
Ouais. Oui, c'est ça, ils disent, parce que c'est mieux pour eux de mourir plutôt que de pas suivre le Coran, tu vois ce que je veux dire? C'est comme ça qu'il résonne.
Ouais, ils ont beaucoup
d'autres que... Alors, j'ai une question.
Non, mais...
On se trouve là-haut avec...
Ouais, tu vois bien la source. Tu vois d'où est la source, elle vient de là. Elle vient de là.
Non. Non, pas du tout, Ras Echal, non. Julien a posé la question, il a dit, est-ce que ça veut dire qu'une personne qui a des souffrances, c'est-à-dire qu'il a fait d'Averot de catégorie C? D'accord? Pas du tout. Pas du tout. Dieu a ses calculs. On sait très bien que lorsque Dieu envoie des souffrances, toujours du chesed. Hein, Dieu a ses calculs. Là, dans ce cas précis, on dit que pourquoi la teshuva passera par des souffrances. La souffrance, ça sera uniquement lorsque Dieu a accepté la teshuva et qu'il va aider la personne à se nettoyer. Et c'est uniquement lorsqu'il a accepté la teshuva. Donc ça veut dire, donc encore une fois, de là on comprend quoi? Que c'est pas ça la teshuva. C'est uniquement lorsque Dieu a accepté la teshuva d'une personne et qu'il veut l'aider à se nettoyer. D'accord? Qu'on verra après, il y a teshuva et kapara. Deux choses complètement différentes.
C'est capable.
D'accord? Il y a ping-pong, il y a teshuva, c'est le retour, c'est je décide de retourner vers un Kadosh Baruch Hu. D'accord? Et kapara, c'est le fait que Dieu décide de me pardonner, ça c'est le retour.
Il faut qu'il nettoie pour
le... C'est deux choses complètement différentes. On verra après que kapara, ça met du mot nettoyage. D'accord? Deux choses complètement différentes. C'est-à-dire que les souffrances viendront seulement lorsque Dieu a accepté la teshuva d'une personne. Donc il dit, bon, j'ai accepté la teshuva, maintenant on va passer à la kapara. Alors, la kapara de catégorie C, c'est il faut passer par les souffrances.
Et en quoi les yissourines dans ce monde-ci sont différents des yissourines dans le Olam Haba?
Les yissourines du Olam Haba, ils sont plus liés à la neshama.
Je m'en doute, pas au corps.
Oui,
mais
non, mais ça veut dire...
Pourquoi?
Ça veut dire, comme aujourd'hui quand une personne elle souffre, d'accord? Une personne elle peut souffrir psychologiquement ou elle peut souffrir physiquement. Un exemple que je donne, d'accord? On sait très bien que souffrir psychologiquement, c'est beaucoup plus dur que souffrir physiquement. Parce qu'une personne qui souffre physiquement mais qui est bien psychologiquement, il arrive à vivre. Mais une personne qui souffre psychologiquement, c'est très très dur. Mm-hmm. D'accord?
Tu comprends que tu souffres pour réparation, notamment dans le Hamaba, quand tu vas dans le Hamaba,
oui.
Et que tu fais, et tu as dit souffrir.
C'est très très dur, c'est une souffrance.
C'est moins difficile
que
quand tu
parce
ne comprends pas.
Parce que c'est écrit qu'une des souffrances qu'il y a au Gan Eden, c'est quoi? Enfin, qu'il y a gagné un homme. Qu'il y a gagné un homme, c'est quoi? C'est qu'on te montre constamment ce que tu rates. C'est horrible. Parce que là, bah, Dieu, il nous aide ici en faisant que lorsqu'une personne fait une bêtise, au début ça le dérange, mais après il oublie. Et qu'il oublie ce qu'il perd. Donc c'est pour ça que ça le dérange plus. Il arrive à dormir. Il arrive à dormir parce que bon, on oublie. Dieu a créé l'oubli. Non, on n'oublie rien.
Je parlais pour l'individu.
Oui, j'ai compris.
Est-ce que l'individu change? Est-ce que les sourines d'en bas font que l'individu
change? Bien sûr,
change
bien sûr, oui. Oui, bien sûr. C'est évident.
C'est...
D'accord. Alors.
et amoulette.
Donc ce qu'on comprend d'ici c'est quoi hein, ce qu'on comprend d'ici c'est quoi? C'est que dans aucun cas les souffrances font partie de la teshuvah. Voilà. Dans aucun cas les jeûnes font partie de la teshuvah. Rien à voir. D'accord? Les jeûnes c'est autre chose, on verra après. Mais ça ne fait pas partie de la teshuvah. Velachen, c'est pour ça. Lo iskiru a Rambam ve Asmag. C'est pour ça que Maïmonide et ce Smag, c'est ces fermitot gadol, c'est le deux grands penseurs juifs qui ont fait le dénombre des mitzvot. Mm-hmm. Ils n'ont pas compté shum ta'anit klal b'mizat teshuvah. Ils expliquent les mitzvot. Et aucun des deux, tu peux me dire, il y a une marloquette là, mm-hmm. aucun des deux a compté le ta'anit, le jeûne, a parlé même du jeûne dans la mitzvot de la teshuvah. Ça n'existe pas, il n'y a pas. Parce que la teshuvah n'a rien à voir avec le jeûne. Av bikritot ou mitot beddin. Vous savez, puisqu'on pense que ça serait bientôt Yom Kippour. Même Yom Kippour. Même Yom Kippour. La raison pour laquelle on jeûne Yom Kippour, c'est pourquoi, qu'est-ce qu'il dit le Passouk, d'accord? Il dit, Verinitem et Nachotechan, vous allez vous faire souffrir. Pourquoi on se fait souffrir? Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Pourquoi on se fait souffrir? Rashi dit parce que lorsqu'une personne se fait souffrir, même au lieu d'expliquer ça si longuement, il dit lorsqu'une personne se fait souffrir, alors lorsqu'on enlève, lorsqu'on donne pas au corps ce qu'il a besoin, alors automatiquement, ce qui va se passer, c'est qu'au fur et à mesure, ce qui va se passer, c'est que c'est la neshama qui va prendre le dessus. C'est quand on habitue notre corps, on dit bah tu peux pas acheter shalom. Maintenant tu dis non, je ne donne plus. Ça veut dire on t'écoute plus maintenant. Et tu l'habitues que maintenant, aujourd'hui, je t'écoute pas. Tu comprends? Et donc là, progressivement, c'est la neshama. C'est la neshama qui va parler. Mais ça veut dire que le jeûne, c'est seulement une mise en condition pour permettre à une personne de faire tes choix plus facilement.
Bah, le corps, il peut
comme Maïmonide dit que celui qui croit que le jeûne c'est uniquement de pas manger et de dormir, il a rien compris, c'est pas ça le jeûne.
Ah, voilà.
Le jeûne, c'est un moment qui est là dans lequel on doit réfléchir. Dans lequel on doit essayer de réfléchir à ce qui s'est passé, pourquoi on jeûne, etc. D'accord? Mais c'est des choses qui sont automatiques. Donc en tout cas, Yom Kippour, pourquoi on jeûne? C'est pour faciliter la réflexion. Pour faciliter la teshuvah. Donc encore une fois, le jeûne n'est pas la teshuvah. Rak avidouy ou bakashat av bikritot ou mitot bedin. Même dans la averot le plus grave, ni Maïmonide, ni le Smag ont compté aucun jeûne dans la mitzvah de la teshuvah. Rak avidouy ou bakashat mechila. Ça, on verra après. La seule chose qu'ils ont compté, c'est quoi? Dans la teshuvah, comme élément pour qui va parfaire la teshuvah, c'est le vidouy, c'est la confession. Confession, ça veut dire j'ai fait tel avera, qu'on le fait dans le alchet, dans la tfila de Yom Kippour. Et au bakashat mechila, le fait de demander pardon. Pardon à qui? Ben, pardon à Dieu. Et pardon également à quelqu'un si on l'a blessé. D'accord? Et ça, hein, c'est seulement, comme on va expliquer après, c'est seulement des détails qui vont parfaire la teshuvah. Ça, c'est des détails qui vont parfaire la teshuvah. Mais la teshuvah en soi, c'est la décision qu'on va avoir dans la tête. Kemo, Shekatou, Batora, Vedvedo, Tratotam. D'accord? Maintenant, il pose une question, la de Moazaken, il dit, Ma, Shekatou, Beyoel. Dans le prophète Yoël, c'est écrit, là-bas, il dit la chose suivante, il dit, Shuvu adai b'chol levafrem, il dit, revenez vers moi, b'chol levafrem, de tout votre cœur, betsom ou vifri, avec le jeûne et avec les pleurs. Ça, a priori, bon, bien sûr qu'on a mis beaucoup de versets, mais ça pose problème, puisque là, a priori, ça voudrait dire que comment faire, je relis, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, revenez vers moi de tout votre cœur, par le jeûne et par les pleurs. Donc ça veut dire que comment on fait teshuvah? On fait teshuvah avec le jeûne. Donc ça contredit tout ce qu'on vient de dire. Comment expliquer ce verset? Alors il explique, l'Admor HaZaken, il dit que là encore une fois, comment on se pose la question? On se pose la question parce que on prend un verset, on le sort du contexte, on dit ah j'ai une question. Pas du tout. Quand on va se remettre dans le contexte de ce qui s'est passé, de l'histoire qui s'est passée là-bas, on va comprendre que la question ne se pose même pas. C'était quoi le contexte là-bas? On va dire dans les mots. À Inou, là-bas, le contexte était Levatel la Xera chez Nixera. Il y avait une Xera, il y avait un décret qui avait été décrété sur tout le Tibor, sur toute la communauté. Les Marek Avon Ador Aliede Isurim Barbe. Dieu avait décidé que pour nettoyer la faute de la génération du Dor, la seule manière, c'était les sauterelles. Il fallait envoyer des sauterelles. C'était bon, il y a toute une histoire, vous pourrez le lire. C'est dans un des 24 livres du Tanakh qui s'appelle Yoël. Là-bas, il raconte l'histoire. Dieu a décidé, il a dit, je vais vous envoyer les sauterelles. Pourquoi? Pour nettoyer la faute du peuple. Et alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il explique à Admor HaZaken, il dit que là-bas, c'était quelque chose de spécifique. Là-bas, on avait une faute collective. D'accord? Il y avait une punition que Dieu avait décidée. On a voulu demander à Kadosh Baruch Hu de ne pas donner cette punition. Mais ça n'a rien à voir avec la Teshuvah. La Teshuvah, c'est évident que la Teshuvah, c'était le fait que le peuple a décidé de ne plus refauter. Mais quoi qu'il en soit, Kadosh Baruch Hu avait décidé de les punir. Alors, comme Kadosh Baruch Hu a décidé de les punir, qu'est-ce qu'il leur a dit, Yoel? Il leur a dit, écoutez, ça veut dire que quand Kadosh Baruch Hu nous punit, il punit quoi? Il punit notre corps. Alors, on va faire souffrir notre corps, on va jeûner, et on va demander à Kadosh Baruch Hu qu'il prenne cette souffrance du corps à la place de la souffrance qu'il voulait nous envoyer. C'est-à-dire, c'est, déjà, c'est une technique, simplement pour éviter, on prend une souffrance pour éviter une autre souffrance. Mais ça, d'abord, qui c'est qui peut se le permettre? C'est quelqu'un qui a la tête de la génération. D'accord? Et c'est dans un cas particulier comme ça. On a vu des fois des jeunes qui ont été décrétés par des Chachamim qui voyaient des décrets arriver. Pourquoi ils décrètent le jeûne? Ça veut pas dire qu'en jeûnant on fait Teshuvah! Pas du tout!
C'est pour éviter.
D'accord? C'est pour éviter autre chose! Pour peut-être amener les gens à faire Teshuvah. Mais ça veut pas dire qu'on fait Teshuvah en jeûnant. Vezewatam, bechol taniyot, shemitranim al kol sarah shel tavol hatzibur. Ça, c'est la raison pour laquelle, chaque fois qu'il y a un malheur qui arrive, Dieu préserve, sur la communauté, qu'est-ce qu'on fait? On jeûne. D'accord? Aujourd'hui, il y a des malheurs qui arrivent, des fois les rabbinim disent, il faut jeûner. Pourquoi on jeûne? D'accord? C'est pas pour faire teshuvah, parce que la teshuvah n'est pas liée avec le jeûne. Pourquoi on jeûne? On jeûne pour demander à Kadosh Baruch Hu que si, il devait nous punir, alors qu'il échange cette punition contre l'effort qu'on vient de faire. À part ça, on peut dire que pourquoi on jeûne? C'est pour amener les gens, pour encourager les gens à faire teshuvah. Mais le jeûne en soi n'est pas la teshuvah.
Aussi, quand tu jeûnes, tu comprends mieux les problèmes des autres.
Ah, très bien. Donc, encore une fois, c'est une mise en condition.
Oui.
Ça veut dire qu'il n'existe pas de tshuva collective?
Est-ce que ça veut dire
qu'il n'existe pas de tshuva collective?
Bien sûr, il y a une tshuva collective, là. Il y a une tshuva collective. La tshuva collective, c'est qu'il a demandé à tout le peuple de décider de ne plus refauter. Sauf que, sauf qu'il y avait un autre problème, c'était la punition qu'Akadosh Baruch avait décidé. Alors, pour éviter cette punition, il a demandé à échanger ça contre le jeûne. Et Dieu a accepté. C'est tout.
Dans tous les concepts qu'on a appris, la tshuva, c'est intellectuellement accepter le Ol Malchut, ne plus transgresser, et il peut y avoir des Yisourines, mais dans ce cas-là, on n'a pas à précéder les Yisourines, on attend que Kadosh Baruch Hu les impose, ou ça se positionne...
Ça, c'est sur le plan individuel. Mais sur le plan général, quand Kadosh Baruch Hu décide de punir une ville, une communauté, un pays, il suit la majorité du pays. Donc quand tu as la majorité des gens qui ont fait teshuvah, cette punition-là, il ne va plus la donner. Tu vois ce que je veux dire? Sauf que des fois, la xéra est tellement grave qu'on ne peut plus rien faire, on n'arrive pas à l'annuler. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire, bon, on va jeûner. Il faut que la majorité de la ville au moins jeûne. D'accord? Il faut que la majorité de la ville a jeûné, on dit, voilà, Kadosh Baruch Hu, tu échanges ça contre ça. Bon, il accepte. Mais c'est un détail. C'est uniquement un détail par rapport à la punition, c'est tout. Mais c'est pas ça, la teshuvah.
Ah, pourri, mais c'est ça. Hein.
Donc, Ugmosh et Katoub, Mgilat Esther. D'accord?
Comme
par hasard.
Comme par hasard.
Ugmosh et Katoub, Mgilat Esther. D'accord? Non. Ugmosh et Katoub, Mgilat Esther. Qu'est-ce qu'elle a dit, la reine Esther? Alors, de quoi il parle ici, quand il parle de... D'accord, bon. Quand il parle ici de Esther, de quoi il parle?
C'est
pas grave. Alors, seconde.
Dis pas, je te vois, je comprends, mais là.
Voilà. Okmosh et Katouf, Bimgilat Esther. Voilà.
Je pense en moi.
Alors, de quoi on parle ici? De quel jeûne on parle après vous?
Je dis plus rien.
Tu viens de le dire.
La page suivante.
Le jeûne d'Esther, c'est marqué noir sur blanc.
Oui, mais de quel jeûne on parle?
Le jeûne d'Esther.
Quel jeûne?
3 jours.
Elle a imposé 3 jours de jeûne à la communauté. Pour qui elle a imposé 3 jours de jeûne? Non, c'était pour elle.
Pour elle.
C'est pas ce jeûne qu'on parle, parce que ça c'est un jeûne qu'elle a demandé pour elle. Elle a dit priez pour moi quand je rentre, ça va bien se passer. Et après, bon, après il y aura une suite. D'accord. Là, c'est pour ça que j'ai dit, on parle pas de ce jeûne. Là, elle a instauré 3 jours de jeûne, tout le monde de jeûne. C'est pas de ce jeûne qu'on parle. On parle d'un autre jeûne. Et c'est pour ça que nos jeûnes s'annulent, etc. On parle d'un autre jeûne qui s'appelle Divrei Hatzemot Vezaakatam. C'était des jeûnes collectifs, pardon? Oui. C'est un jeûne collectif que Mordechai avait instauré pour tout le Ham Israël. Rien à voir avec le jeûne qu'Esther a demandé de faire avant d'entrer chez le roi. Donc là, encore une fois, on avait un jeûne collectif. Pourquoi un jeûne collectif? Pour le Tibour. D'accord? Pour le Tibour. Ça ne veut pas dire que le jeûne c'est la Teshuvah. C'était pour échanger cette punition contre une autre punition. Ouma, Shekatou, Vessifre, Amoussa. Oberosham, Sefer Arokar, Sefer Hasidim, le fait qu'on voit dans les livres de Moussar, et en tête des livres de Moussar, on voit le Sefer Arokar et Sefer Hasidim, donc c'est deux livres qui datent d'il y a plus de 1000 ans. Qu'est-ce qu'on voit Donc, quand on parle de, quand on parle du livre de Moussar, à l'époque de la Chassidoute, c'est le Moussar qui date d'il y a plus de 1000 ans.
Ouais.
Donc, Arbeta Niot Vesi Goufim Leover Akritatumitot Bedin. Donc, plusieurs jeûnes et souffrances pour celui qui a transgressé des avérotes sur lesquelles il faut être mis à mort. Vechen pareil, les mots Tizera Levatala. Une personne qui fait sortir de la semence en vain, pour rien. Shechayav mita bideshamaim, qu'une personne comme ça doit être mise à mort bideshamaim par le ciel, comme on verra par la suite. Kemo shekatu vatorah, gabe er veonan, comme c'est écrit dans la Torah à propos de er et onan, que Dieu les a mis à mort pour ça, hein. Dino kechav ekritot leinyanze. C'est la question de Morazaken. Il dit, attends, je comprends pas. Toi, tu me dis que c'est passé à la Teshuvah, pourtant, on voit clairement, c'est écrit dans Sefer Hasidim, dans Sefer Arokar, qu'il y a des jeûnes qui sont faits pour certains avérotes, et pour chaque avérot, on te dit combien de jeûnes. Alors là, la Mourazaken va commencer à entrer dans les détails. Dans les détails, il va commencer à expliquer à quoi peut servir le jeûne. D'accord ? À quoi peut servir le jeûne ? Donc il va donner trois options. Trois options, trois raisons à quoi peut servir un jeûne. Oui ? Trois options. Il est ouvert, ton livre ou pas ?
Oui. Il est parti. Allez, voyez.
Alors.
Chapitre 5. Tenir.
Bon. Comment on est là ? Alors.
Oui, mais.
Si y a des choses qui sont pas compréhensibles, il faut m'arrêter. Est-ce que tout est clair ?
Non, pas du tout.
Tout est clair ?
Pas du tout.
Qu'est-ce qui n'est pas clair ?
Le jeûne du Thibault. Il faut que tu me l'expliques par rapport à la Tchouba ou au concept qu'on a appris.
Ce qu'on explique encore une fois, c'est que le jeûne du Thibault, d'accord ? C'est soit pour faire Tchouba au Thibault, pour aider le Thibault à faire Tchouba. C'est une première option. Soit pour échanger une punition par le jeûne.
Donc il n'y a aucun rapport avec le Thibault. Avec la Tchouva.
Rien à voir avec la Tchouva. Le jeûne, non, attention. Attends.
Si, ça peut prendre un
effet. Attention. Ça veut dire que le jeûne n'est pas la Tchouva. Ah, alors pourquoi on jeûne ? Pourquoi surtout, c'est faire assez dit, mais il dit clairement, il dit par exemple, celui qui a fait tel et tel avéra, tel nombre de jeûnes. Ah, pourquoi on parle de nombre de jeûnes ? Il y a trois options. Première option, pourquoi on parle de jeûne ? Et c'est, les jeûnes existent. Alors aujourd'hui, avant, puisqu'on n'aura pas le temps de faire la suite déjà avant quelques mois, aujourd'hui, on jeûne plus. D'accord ? Pourquoi on jeûne plus ? Parce que on considère que le jeûne n'est permis, le jeûne facultatif est permis seulement s'il ne va pas empêcher la personne d'étudier la Torah. Or aujourd'hui, on est dans une génération qui est très faible, déjà à l'époque de Morazaken, et les gens ne peuvent pas jeûner. Les gens ne peuvent pas jeûner comme ça à longueur de journée, d'accord ? Donc on va échanger ça par la tzedaka. À l'époque de Morazaken, on verra après, il y avait des gens qui jeûnaient des demi-journées, enfin des journées d'hiver, d'accord ? Et qui associaient les demi-journées, bon, il y avait des techniques, d'accord ?
Quel rapport entre la tzedaka et le jeûne ?
C'est que la tzedaka remplace le jeûne, parce que quand je donne la tzedaka, je donne la valeur du jeûne. Je donne quelque chose de mon corps, parce que j'ai travaillé pour gagner cet argent. Donc je donne ma sueur. On verra tout ça après, ne vous inquiétez pas. Non, il n'y a aucun détail qui sera laissé au hasard. Laissera ta jeûne. Alors, pourquoi on nous parle de jeûne ? D'accord ? Pour différentes avérantes. Alors, trois options possibles. Aïnou kede l'inatel monesh sur Mishalmala. Première option possible, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pour demander à Kadosh Baruch Hu d'échanger les souffrances qu'il avait prévues pour nous dans le ciel, on lui demande de les échanger contre la souffrance qu'on va contre les jeûnes. Ça va être une première option. Bon. Mais encore une fois,
c'est pas le contraire à ce qu'il a dit.
Non, pas du tout. Pas du tout. C'est pas la Teshuva. Encore une fois, n'oubliez pas. On n'est pas en train de dire que les jeûnes n'existent pas. Aujourd'hui, ils sont rachetés par la Tzedaka, mais on n'est pas en train de dire que les jeûnes n'existent pas. Ce qu'on veut dire, c'est que les jeûnes ne sont pas la Teshuva. Parce que dans la tête des gens, c'est quoi Teshuva ? Dans la tête des gens, Teshuva, c'est très très dur. C'est une erreur.
On a dit que les Yisourin devait venir de Kadosh Baruch
Hu. Oui, très bien. Oui.
Et là, on presse non. Et on a dit en aucun...
Ça, c'est les Yisourin.
On
n'a
pas le droit souvent. De presser
les... Ça, c'est les souffrances. Ça, c'est les souffrances qui nous viennent sur la tête. D'accord ? Non.
À Kadosh Baruch Hu, pour avoir une souffrance pour un Kahal.
Oui.
Qu'est-ce que c'est le Kahal ? Il anticipe les souffrances
non.
Et il souffre ailleurs.
Deux secondes. Pareil. Non. Ça c'est ce qu'on a dit qui doit venir que d'Akadosh Baruch Hu, qui ne doit pas venir de nous. Ça c'est par rapport aux souffrances. C'est pas par rapport au jeûne. Le jeûne c'est autre chose. D'accord ? Le jeûne c'est considéré comme un sacrifice, comme on verra après. Parce que quand je jeûne, je sacrifie, d'accord ? Je sacrifie ma graisse. Et donc c'est considéré comme un corban. Le jeûne c'est très très particulier. Sauf on dit ici il y a des gens qui pensent que je vais me faire souffrir, je vais me faire un accident tout seul, chasse shalom. D'accord ? Tu n'as rien compris ? T'as rien compris parce que c'est Akadosh Baruch Hu qui fait un qui chasse shalom. qui fait souffrir la personne, quand il aime et qu'il a décidé, il dit bon, tu veux te nettoyer, je vais te nettoyer. Le jeûne, c'est... alors deux secondes, juste, excuse-moi, on va juste finir les trois raisons, sinon on va se perdre. Donc on a trois choses, d'accord? Trois raisons, trois raisons. Après, tu peux toutes les questions que tu veux. D'accord? Trois raisons possibles pour lesquelles on peut encourager le jeûne. Mais, encore une fois, qui n'est pas la teshuva. Premièrement, on a expliqué, c'est que le jeûne peut remplacer d'autres souffrances. Donc, pour être sauvé des souffrances du ciel. Deuxièmement, vegam, kédé les arès ou le mer gmar kaparat nefcho. Le jeûne a aussi la capacité d'accélérer le pardon, d'accélérer les choses. C'est-à-dire, des fois, il y a des choses que, bon, tu ne jeûnes pas, ça va se faire, ça prend du temps, avant de nettoyage. D'accord? Et là, le jeûne a une capacité d'accélérer les choses. D'accord? Ça, c'est un deuxième point. Et un troisième point, Vegam, oula yenosha velachem chol libo venasho me'ava ki meira. Troisième point, c'est que peut-être la personne n'a pas fait teshuva par amour, mais a fait teshuva par crainte, et automatiquement, Akadosh Baruch Hu ne pourra plus lui envoyer des souffrances. C'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai dit que Dieu envoie les souffrances seulement à celui qui a fait teshuva par amour. Comme il a montré à Akadosh Baruch Hu qui a fait teshuva par amour, donc il dit, ah, moi aussi je t'aime et je vais te nettoyer.
Oui, ça n'empêche pas de...
Mais celui qui a fait teshuva par la crainte, Akadosh Baruch Hu ne lui envoie pas de souffrance. Donc encore une fois, ce qu'il faut retenir de ce chapitre, il y a eu plusieurs détails à la fin de ce chapitre, ce qu'il faut retenir de ce chapitre, c'est que les jeûnes, ça existe. On verra des détails après. Les jeûnes, ça existe. D'accord? Il y a même des nombres, il y a différents nombres de jeûnes qui ont été instaurés, on va voir, il faut les faire, il faut les racheter par la tzedaka, etc. Ça existe. D'accord? Mais, le jeûne n'est pas la teshuva. À quoi sert le jeûne? Trois points, on a expliqué à quoi sert le jeûne. Le jeûne peut servir tout d'abord à échanger une punition qui était prévue contre cette punition. Okay. D'accord? C'est comme une heure de colle. Tu vas promis une grosse punition, tu vas une heure de colle. Voilà, ça c'est le jeûne. Ça c'est la première raison possible. Deuxième raison possible, c'est que le jeûne a le pouvoir d'accélérer les choses, parce que je montre à Kadosh Baruch Hu tellement ça me dérange que je jeûne. D'accord? Et troisième point, c'est que peut-être que je suis pas retourné vers Kadosh Baruch Hu par amour, mais seulement par crainte. Donc, pour demander à Kadosh Baruch Hu de ne pas me faire souffrir et que pour tout se passe bien quand j'arrive en haut, qu'est-ce que je demande à Kadosh Baruch Hu? Je dis bon voilà Kadosh Baruch Hu, j'essaie de te montrer que vraiment je le fais pour toi, voilà je suis prêt à me jeûner. Mais encore une fois ce qu'on retient c'est que les jeûnes ne sont en aucun cas la teshuva. Pour ce qui est du jeûne collectif, d'accord, c'est la même chose. Quand les chachamim, les gdolim décident d'instaurer un jeûne collectif, ça peut être pour plusieurs raisons. Ça peut être parce que ils sentent que le peuple a besoin de faire teshuva. Donc ils vont les mettre en condition pour faire teshuva. Mais ça peut être aussi parce qu'ils ont vu qu'il y a une xéra qui arrive. Ils ont dit on va échanger cette xéra contre. On va échanger cette xéra contre le fait que le peuple maintenant s'est sacrifié. C'est un sacrifice qu'ils ont fait. Mais encore une fois, la teshuva n'a jamais été le jeûne. C'est pas parce que j'ai pas mangé une demi-journée que je suis retourné vers Dieu. Ça n'a rien à voir. Et c'est logique. C'est pas parce que je me suis retenu de manger une demi-journée ou une journée que ça y est, c'est fini, j'ai fait teshuva. Ça n'a rien à voir. C'est pas ça la teshuva. Et les gens ils pensent, comme ils ont jeûné Kippour, ça y est, ah, fait teshuva, bravo. Non. C'est seulement une mise en condition.
Et aussi
d'accord. Ça veut dire qu'on peut avoir quelqu'un qui mange le jour de Kippour pour des raisons de santé, bon, avec bien sûr les restrictions en Afrique, et qui a fait teshuva, et qui est beaucoup mieux qu'un autre qui n'a pas mangé, d'accord, et que c'est même senti mal, mais il n'a pas fait teshuva.
Oui, d'accord.
Mais d'accord, c'est très très important.
C'est le corban.
Alors,
qui permet de remettre
maintenant,
en bonne relation.
C'est quand même nouveau ce qu'il dit là de Morazaken, c'est quand même dérangeant. Pourquoi c'est quand même dérangeant? Parce que on a toujours eu l'image, qui dit que il y a un concept de jeûne, il y a un concept de sacrifice, il y a un concept de tzedaka. Et là de Morazaken, il vient. Alors, on ne sait pas trop quoi penser. D'un côté, on a l'impression que c'est très facile, parce que finalement, c'est une décision. Mais d'un autre côté, on a l'impression que c'est très très difficile parce que ça doit être une décision de changer complètement. Oui, vous me suivez? Donc on ne sait pas trop quoi penser. Est-ce que c'est pour notre bien? Est-ce que c'est plus difficile? Est-ce que c'est plus facile? Alors on va commencer le Perek Bet, le chapitre 2. Juste on va commencer, c'est bientôt l'heure, je crois.
Ouais,
bon, d'accord. Là-bas. On commence un petit peu. D'accord. Ah, dit l'Admor Hazaken. Kolze, tout ce qu'on a expliqué jusqu'à maintenant.
Génial.
Tout ce qu'on a expliqué jusqu'à maintenant, que la teshuva, c'est uniquement le retour, et c'est pas les jeûnes, et c'est rien d'autre, c'est uniquement le fait de décider de changer, et tout ça, c'est seulement les inyan, kapara, umkhilat et avon. C'est seulement ce qui concerne kapara, umkhilat et avon, c'est-à-dire le fait que Dieu va me pardonner la faute. Ça y est, je t'ai pardonné. puisque vous avez décidé de changer, le fait que vous avez décidé de changer, c'est fini, je suis déjà pardonné. Chez Nimchallo le Gamre, ma she'avar al mitzvat hamelech. Qu'on lui pardonne entièrement le fait qu'il a transgressé ce que le roi a ordonné, donc automatiquement le fait qu'il s'est révolté contre le roi. D'accord. Ça, on lui pardonne, il n'y a pas de problème. Tu as décidé de changer, on recommence à zéro, il n'y a pas de problème. D'accord. Ça, c'est bien sûr. Bien sûr. Dans quel cas c'est ? Keshasa tshuva shlema. Encore une fois. C'est évident que c'est uniquement lorsque la personne a fait une teshuva complète. Alors, vous avez bien compris ce que ça veut dire complète. Complète, ça veut dire pas seulement la teshuva sur une avéra, mais teshuva sur toute l'avéra. C'est-à-dire teshuva de ne plus jamais fauter. D'accord. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que cette personne-là, lorsqu'il va arriver au jour du grand jugement, au jour de Rosh Hashanah, au jour du grand jugement, ve'en maskirin lo davar vachatit davar biyamadin. On ne lui glissera pas un seul mot, enfin, une expression en hébreu qui dit ni un mot et ni un demi-mot. C'est ni une allusion, c'est-à-dire qu'on ne lui parlera pas du tout de ses avérot, Yom Hadin. On ne lui parle pas. Léon Choazir Hazeshalom Boalam Abba. C'est pas du style, on dit bon, on te laisse tranquille ici, tu arrives en haut, on va te. D'accord ? Non. Là, quand on dit qu'on a accepté la teshuva d'une personne, ça veut dire qu'on peut avoir une personne qui a fauté toute sa vie, il a fauté toute sa vie, juste avant de mourir, il a fait teshuva, une vraie teshuva, dès qu'il arrive en haut, comme Rabbi Elazar ben Dourdeïa. D'accord, dès qu'il arrive en haut, mais il faut être capable de faire une teshuva comme ça, dès qu'il arrive en haut, on lui parle pas, on lui glisse pas un seul mot de ce qu'il a fait, on lui dit rien. Comme si il s'est jamais rien passé. D'accord? On lui parle pas ça. Veniftar le gamre minadin, boalam abba. Il est entièrement quitte du din, boalam abba. Ça, c'est une personne qui a fait teshuva. Ah. C'est-à-dire comment? C'est-à-dire qu'une personne qui a fait teshuva, sans corbanote, sans jeûne, sans rien de tout ça, quand on dit qu'il a fait teshuva en clair, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il arrive au Yom Hadin, on fait comme si qu'il a rien fait. Il n'y a pas d'avérote, on a rien vu. Bon. Le problème c'est quoi? Le problème c'est quoi? Ce qu'on avait expliqué de Mourazaken. Le problème c'est que même si Akadosh Baruch Hu ne va rien te dire, ça veut pas dire que tu vas être chéri à ses yeux comme avant. C'est comme un homme qui a blessé sa femme. Bon, il s'est excusé. Bon, ok, on n'en parle plus, c'est une affaire close. Ok, affaire close. Mais.
Ça a tout coûté cher.
C'est plus comme avant. Ça a changé. C'est plus comme avant. Bon, on n'en parle plus. Ça y est, on a décidé, c'est clos. D'accord, t'as décidé de recommencer, c'est clos. C'est la décision qui compte. Je te fais confiance, j'attends pas 10 ans pour te t'excuser. Je t'excuse tout de suite, on n'en parle plus. Mais, ça a laissé des traces. Ça a laissé des traces. On n'en parlera pas, on va pas laisser une allusion, mais la relation avec Dieu n'est plus comme avant. D'accord? C'est pour ça que vont venir tous les sacrifices, etc. C'est uniquement pour essayer d'être chéri aux yeux d'Akadosh Baruch Hu comme avant. Le bouquet de fleurs, ouais. D'accord, comme on l'a dit à Sinandia. Omnam, cependant, Sheye le Ratzon ifne Hashem. S'il veut être accepté devant Dieu. Umerutse vechaviv le fanavit barer le kodem achet. Et j'ai envie d'être chéri, j'ai envie d'être accepté devant Dieu. Pas envie d'être, comment il dit, persona non grata, d'accord? C'est bon, on te dit rien, mais on passe sa route, d'accord? Non, j'ai envie d'être accepté, j'ai envie que Dieu soit content de me voir. J'ai pas envie d'être un trop. Là, à ce moment-là, ayat tsarich la vie korban ola. C'est pour ça qu'à l'époque du Beth Amikdash, on devait offrir un sacrifice ola. Encore une fois, il faut pas croire que quand on amenait un sacrifice ola, c'était ça le pardon. Alors ça y est, j'ai fauté, je paye et c'est bon. Non. Le sacrifice Ola dit clairement Rambam, il dit c'est quoi le sacrifice? Enfin, Rambam il dit en allusion, c'est le Mourazaken qui explique. Il dit c'est quoi le sacrifice, c'est quoi le Korban Ola? Le Korban Ola, c'est uniquement une fois que la personne a déjà fait teshuva. Et le Kohen lui pose la question. Avant de faire, quand il dit vous avez fait teshuva? Fini, vous avez plus refaire. Il dit bon. Là, on va amener un bouquet de fleurs. Ayat, Sarir, la vie Korban Ola. Afilou, al mitzvat aseh kala. Même sur une petite transgression. Tu styles une personne, bitou Torah 5 minutes. D'accord, il a pas tué Torah 5 pour lui, ben ça le dérange. Même pour ça le dérange, je sais plus comme avant aux yeux de Dieu. Et là même un korban. Que moche d'archou rabotenu, zichonal vracha et Torah de Kohanim. Comme c'est écrit dans Torah de Kohanim. D'accord, donc Torah de Kohanim c'est le Midrash sur Vaikra. Al pasuk venirtsalo, le verset qui dit qu'à propos du korban Ola, il dit que lorsqu'on va amener le korban Ola, venirtsalo, il sera accepté. Que là-bas, qu'est-ce qu'il dit Torah de Kohanim? Il dit sur quoi il sera, ça veut dire quoi qu'il sera accepté, d'accord? Il dit ça veut dire qu'il va être accepté aux yeux d'Akadosh Baruch Hu comme avant, c'est un cadeau qu'on amène à Akadosh Baruch Hu. Ou Deita Bigmara Perekama Dizvachin Deola Mechaparet El Muzot Asse. Bon, on va m'arrêter parce que c'est déjà l'heure, d'accord?
Il y a une question.
Ça veut dire comme ça. D'accord. Quelle heure il est? Je n'arrive pas à voir l'heure. Là. Il y a encore 2-3 minutes.
Non.
Oui. Hein? Ah,
pas encore moins.
Alors, Ugdeita Bigmara Perek Kama Dizvachim, comme c'est écrit dans la Gemara dans le premier chapitre de Zvachim, qui parle de sacrifice, Derola Mechaper et Amitvat Asé, que le Korban Ola pardonne sur les mitzvot positives. Les achar chez Asat Shuva, mais ça c'est seulement une fois que la personne a déjà fait Teshuva, venim chalo aonesh et qu'on lui a déjà pardonné. C'est seulement une fois qu'il a déjà fait Teshuva, et qu'on lui a accepté cette Teshuva. Alors on part de la base, que certainement si c'est une Teshuva sincère, Dieu l'a accepté. Mais théoriquement, on peut amener le Korban seulement une fois que Dieu a accepté la Teshuva. Il amène un exemple. Il dit, ou qui Adam, je sarah de Meller, comme un homme qui a fauté contre un roi. Il a fauté contre le roi, il a fait une faute grave contre le roi. Si maintenant il vient directement, il amène un cadeau au roi, d'accord, il a fauté, il amène directement un cadeau au roi, non seulement que le cadeau ne va pas servir, le cadeau va empirer les choses. Parce que qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire quoi? Tu crois que tu vas m'acheter avec un bouquet de fleurs? Là, non seulement que le bouquet de fleurs il a pas aidé, le bouquet de fleurs il a empiré. Hein, je vois des sourires. Le bouquet de fleurs
il a... Il y a du vécu ou quoi?
Il y a déjà vu.
Il y a du vécu.
Tu veux la prendre tes frères.
Ta femme, tu l'appelles le roi, toi?
Non seulement que le bouquet de fleurs va pas aider, le bouquet de fleurs va empirer les choses. Donc, là, c'est pas bon.
On a manqué.
À quel moment on amène le bouquet de fleurs? On amène le bouquet de fleurs une fois que tu t'es excusé et qu'on a accepté tes excuses.
Non, pas tes excuses.
D'accord.
Que t'as promis de changer.
Oui, d'accord. Donc, tu t'es excusé. Mais excusé, ça veut dire quoi? Excusé, ça veut dire que tu t'es excusé en disant, je change. Et qu'on a accepté tes excuses. D'accord. Là, seulement, on t'a mis un bouquet de fleurs pour dire, bon, on va ramener les choses comme avant. Donc, ou que Adam, chez Sarah, allez, je fais encore deux lignes, on s'arrête. Ou que Adam, chez Sarah, ben, Meller. C'est pas dit, je vous t'avais dit. Je suis à l'oral. Ou que Adam, chez Sarah, ben, Meller. Comme un homme qui a fauté contre le roi. Ou Fiso a l'idée prakritim. Et il a essayé tout d'abord de calmer le roi. D'accord, au travers d'intermédiaires. Parce que lui, il peut pas le voir. Donc il a envoyé les intermédiaires pour essayer de calmer l'affaire. Ou Machallo. Et le roi lui a pardonné. Afalpiken quand même. Choler Doron Numincha Lefanav. Il enverra quand même un cadeau devant le roi. Chez Hydratzelolir Ospinameler. Comme ça, le roi, quand il va passer pour moi le roi va avoir un regard souriant. Il sait très bien que le roi ne lui reparlera plus. Il est sincère, il dit je t'ai pardonné, c'est-à-dire ça y est, l'affaire est close. Mais il sait que ce ne sera pas comme avant. Ça, c'est pour ça qu'il va envoyer un cadeau au roi. Velachon. Oui, bon, on va s'arrêter ici.
Mais là, on parle de personnes physiques. Évidemment, on fait des allusions à Kadosh Baruch.
Oui.
Mais nous, en tant qu'individu, si on est dans cette démarche, comment tu sais qu'Kadosh Baruch, il agrée ton
passé choix? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai dit qu'on part de la base que Dieu a accepté le pardon. Si je suis sincère, Dieu aussi est sincère. Si je suis sincère, Dieu accepte. Mais c'est pas très compliqué. Une personne peut décider sincèrement de changer. C'est pas le bout du monde. Sincèrement, il veut changer. D'accord? Voilà, on va s'arrêter ici. Bon, en tout cas, si on peut résumer en un mot ce qu'on a expliqué aujourd'hui, d'accord? On a expliqué que la semaine dernière, le point principal de la semaine dernière, ce qu'on a expliqué, c'est quoi? C'est que le plus grave dans une avéra, c'est pas le dégât qu'on a causé, mais c'est surtout l'état d'esprit qu'on s'est révolté contre Akadosh Baruch. Ça c'était le point principal la semaine dernière. Le point principal de cette semaine, c'est quoi? C'est que la teshuva n'a rien à voir avec les jeunes. La teshuva n'a rien à voir avec la souffrance. D'accord? Et la teshuva n'est pas ciblée. La teshuva, c'est un état d'esprit général qui dit, je me suis révolté, je vais arrêter de me révolter. Et on a amené plusieurs exemples, plusieurs preuves. D'accord? Qui disent qu'en un instant, avec une pensée, on peut passer du stade de rachat au stade de tzadik. En un instant.
Gamour.
Parce que c'est dans ma tête. Tout se passe dans la tête. Sauf que quoi? Pourquoi on parle beaucoup de sacrifices? Et Bezrat Hashem, on parlera après, les sacrifices, les tzedakah, etc. Ça, c'est seulement pour être chéri aux yeux d'Akadosh Baruch Hu comme avant. Ou bien, comme on l'a dit, pour des raisons externes, comme on l'a dit, pour atténuer une punition qui aurait dû arriver. Bon, c'est externe, ça n'a rien à voir avec la teshuva, c'est pas ça la teshuva. La teshuva en soi, c'est quoi? C'est décider de changer sa voie et décider de passer Bezrat Hashem, une Shana Tova, en tout cas.
Amen. D'accord.